Parle, car ton serviteur écoute. C'est l'attitude que nous voulons avoir. Nous voulons prendre nos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Nous continuons toujours dans cette série d'études. Aux saints qui sont à Éphèse, hein, c'est comme ça qu'il a commencé sa lettre. Donc Éphésiens chapitre 4, vous rappelez la semaine dernière, on a dit que les trois premiers chapitres étaient doctrinaux, et puis maintenant les trois derniers chapitres traitent de la vie pratique, de la vie chrétienne. Mais ce n'est pas complètement séparé, hein, c'est la mise en pratique de la doctrine. Et nous vivons l'enseignement de Dieu. Donc Éphésiens chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Éphésiens 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. » Vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » Ce sont les versets 4 à 6 qui vont être l'objet de notre attention ce matin. Vous notez que au verset 1, il nous dit à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Et à la fin du verset 3, il dit « vous efforçant de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix ». Donc, il y a une marche, et il y a une marche dans une unité qui existe déjà. D'où le thème, le titre de notre étude, c'est « L'unité existe, vivons-la ». Il ne nous encourage pas à créer une unité. Pourtant, dans notre monde, dans notre société, on est constamment en train d'essayer de créer l'unité. On n'arrive même pas à le créer dans une famille et on veut le créer au niveau national ou universel. Et on a du mal à avoir même l'unité parmi les bien-aimés. Et donc, c'est quelque chose, l'unité, ce n'est pas caractéristique de l'homme pécheur. Tandis que l'unité, c'est le mot d'ordre de Dieu. Chez Dieu, tout égale 1. Lui vit dans la base 1. Tout est 1. La Trinité, les 3 en 1, le mariage, les 2 feront 1. Le corps de Christ et des millions de personnes disent un seul corps. Et vous avez remarqué, et certainement dans les versets 4 à 6, qu'il répète plusieurs fois, même 7 fois, le mot un seul. Un seul. Un seul. Et parce que ça existe déjà. Tout effort de rassemblement chrétien pour recréer une unité est un produit humain. Hein. Des fois, il y a des grandes, on appelle ça de l'œcuménisme, on appelle ça tout ça. On essaie de rassembler, et puis par le fait de les mettre tous ensemble dans un même sac, on dit ils sont unis. C'est pas très uni. Hein. Et puis pour pouvoir s'entendre, on réduit tout au minimum. Il y a très peu en commun. Et après, chacun, parce que chacun doit respecter l'autre, finalement, on ne peut rien se dire parce qu'on ne peut pas dire ce qui est différent. Et ces mouvements œcuméniques, finalement, on parle de l'amour, on parle de la paix, et puis c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Parce que dès qu'on dévie de cela, eh bien, ça crée la discorde. Mais on est en train d'essayer de créer une unité qui n'est pas là. Tandis que, en fait, la Bible nous enseigne que l'unité existe déjà. Dans tout ce que Dieu fait, il y a unité. Et nous sommes appelés, à la fin de ce verset 3, il nous dit, appelés à conserver l'unité. Ben, si on le conserve, c'est que ça existe déjà. Hein? Il nous appelle à conserver l'unité dans la paix, par le lien de la paix. Là, quand Paul s'adresse à ces chrétiens d'Éphèse, Éphèse, ce n'était pas le paradis, hein? Éphèse, c'était une ville où il y a toutes sortes de choses se passaient, tout était là, les chrétiens, et nous en parlent, hein? Ce n'est pas des petits saints, parce qu'il nous dit, vous étiez morts dans vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les mains. C'est-à-dire tous les péchés étaient là. Ces gens qui sont dans l'église d'Éphèse, c'est des gens qui étaient dans tout ce qui se fait dans le monde. Hein, ils ont tout connu. Il les rassemble là et dit, vous formez une unité. Vous êtes très différents. Certains étaient juifs, certains étaient païens, certains étaient d'une croyance, d'autres une autre croyance, d'une autre nationalité. Peu, ça. Mais il dit, vous êtes l'unité. Conservez l'unité parce que vous êtes en Christ. Et c'est très important, et parce que justement, vous lisez le premier chapitre, on l'a étudié, mais vous lisez les premiers 14 versets et vous voyez combien de fois il dit en lui, en Christ, en Christ. Déjà, ce qui nous unit, ce n'est pas le fait de penser pareil, c'est le fait d'être en Christ. C'est déjà la première base de notre unité, d'être en Christ. Et en Christ par la grâce de Dieu. Et donc, maintenant, nous allons regarder cette liste de pierres de granit qui constituent la fondation de cette unité. Et il est très important de les voir, parce que bon, chacun a ses idées, et c'est sûr que rien que dans le monde évangélique, hein, sans parler du christianisme en général, rien que dans le monde évangélique, qu'est-ce qu'il y a comme clocher, comme différents mouvements, et on dit comment rassembler tout cela. Eh bien, premièrement, c'est ici il nous parle de l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Et il nous parle de cette unité et ceux qui forment cette unité. Et c'est bien plus que. Il ne dit nulle part que ce sont tous ceux qui s'appellent Pierre, Jean ou Marie ou Élisabeth, mais c'est ceux qui sont en Christ par la foi. La première chose que je veux souligner ici, vous avez peut-être remarqué, mais au verset 4, il nous parle de l'Esprit de Dieu. Il y a un seul Esprit, l'Esprit de Dieu. Au chapitre 5, il nous parle d'un seul Seigneur, qui est Jésus-Christ. Et au verset 6, il nous parle d'un seul Dieu et Père. La première chose, c'est la Trinité. La Trinité est là. Et la Trinité, c'est tri-unité. Hein, donc, trois personnes qui forment un seul Dieu. Ils sont tous égaux. Ils sont tous identiques. Ils sont tous trois éternels. Les attributs de l'un sont les attributs de l'autre. Seulement, ils ont des fonctions différentes dans le plan de Dieu. Mais sinon, ça forme un seul Dieu. Et la première chose, dès qu'on a affaire avec un mouvement religieux, une religion ou quelque chose, peu importe ce qu'elle s'appelle, si elle ne reconnaît pas la Trinité de Dieu, elle est dehors. C'est tout. Si là, on peut, c'est des gens qui peuvent invoquer Dieu, c'est toutes sortes de mouvements. Mais à partir du moment où c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne sont pas chacun Dieu et les trois un seul Dieu, à partir du moment que ce n'est pas vrai, ce n'est plus du christianisme. Hein, peu importe ce qu'on l'appelle. Et il y a des mouvements comme ça que vous pouvez éliminer très rapidement. Même s'ils se disent chrétiens, et ça arrive, il y en a qui se disent chrétiens. Vous dites, par moi, les témoins Jéhovah, par exemple, disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ils disent que le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est pas une personne. Or, tout de suite, à partir du moment qu'il y a cette c'est pas moi qui les exclue. Moi, je les aime bien, ils sont gentils. Mais la Bible les exclut. Parce qu'il dit, c'est pas là, ils sont pas dans cette unité. Il faut, tout, dans la Bible, tout est basé sur ce Dieu trinitaire. Et même si on ne le comprend pas, c'est pas grave, mais c'est une réalité. Hein? Maintenant, regardez cette liste d'éléments qui forment cette unité, qui sont donc qu'ils considèrent comme étant de base, et c'est ceux qui croient en ces choses, qui adhèrent à ces choses, qui sont vraiment dans le corps de Christ. Et donc, il nous parle justement du. Il nous dit au verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Verset 5, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et au verset 6, un seul Dieu et Père. Et donc, faites le compte, il y en a 7, et nous allons prendre chacun un à la fois. Premièrement, il parle au verset 4, donc il nous dit, il y a un seul corps. Et ce corps, c'est celui dont parle l'apôtre Paul déjà au chapitre 3, verset 6. Il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, ils forment un seul corps. Pourquoi ? Parce qu'ils participent à la même promesse. C'est-à-dire, ils ont placé leur confiance dans cette promesse de Dieu. Cette unité de corps, elle n'a aucun rapport, elle n'est pas définie géographiquement, hein, parce que certains disent, ouais, le christianisme, c'est l'Ouest. Non, non, ce n'est pas géographiquement que c'est défini. Ce n'est pas culturellement, ce n'est pas ceux d'une certaine culture qui correspond plus. Ce n'est ou par une langue. Certaines religions veulent se définir. Il y a la langue de Dieu. Il faut que le culte se fasse dans une certaine langue. Non, ce n'est pas comme ça qu'il le définit. Ce n'est pas éthiquement, ethniquement. Hein, ce n'est pas pour une ethnie particulière. Ce n'est pas une dénomination humaine. Les hommes, ils ont toutes sortes de dénominations. Hein. On se donne les noms pour toutes sortes de choses. Et, si on est en politique, chaque mouvement a son nom. Si c'est en religion, chacun a son nom. Si c'est en géographiquement, on a chacun d'une région. Mais lui, il ne tient pas compte de cela. Hein. Le corps de Christ n'est pas défini par cela. C'est l'ensemble de tous ceux qui ont placé leur confiance en la promesse que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, quiconque croit que Jésus-Christ a été crucifié et qu'il est ressuscité, eh bien il sera sauvé. Alors, Romains 19 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une promesse. Si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité, ben, s'il est ressuscité, c'est qu'il était mort, eh bien, tu seras sauvé. Et c'est l'ensemble de tous ceux qui ont placé confiance, c'est-à-dire acte de foi, en cette promesse. Si tu crois, tu seras sauvé. À partir du moment que je crois que je suis sauvé par quelque autre moyen, ou avec l'ajout de quelque chose à cela, eh bien, je ne suis plus là-dedans. Hein, c'est strictement ceux qui ont placé confiance en cette promesse, qui participent à la même promesse en Jésus-Christ. Tous ceux, peu importe d'où on vient, la question c'est, nous croyons que Jésus, nous sommes sauvés parce que Christ est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Et il est notre sauveur. Et je rappelle... ce qu'il nous dit dans Galates, chapitre 3, verset 28, il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a plus les distinctions qu'on a sur terre. Sur la terre, bon, on départage pour toutes sortes de raisons, certaines bonnes, certaines mauvaises, certaines sont pratiques, certaines sont une gêne, mais dans le corps de Christ... Eh bien, l'âme d'un homme c'est l'âme, et l'âme d'une femme, c'est exactement pareil. L'âme de quelqu'un d'une certaine origine, c'est la même âme qu'une autre personne. c'est le souffle de Dieu. Et donc, il n'y a plus de distinction. Et c'est cela qui nous rassemble, ceux qui sont ont placé foi en cette confiance. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, c'est la première chose à faire si on veut faire partie de ce corps de Christ. Vraiment, le Christ, l'Église de Christ, telle que lui l'a conçue, pas telle que les hommes l'ont partagée, mais c'est placer ma confiance. Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification. Un seul corps. Et un corps, quand on parle de corps, on parle d'un organisme. Hein, on ne parle pas d'une mécanique. On parle d'un organisme vivant. Hein, c'est composé de personnes vivantes. Et même ceux qui nous ont quittés, dans l'Esprit de Dieu, ils sont toujours vivants. Jésus a dit, il dort. Hein, c'est pour lui, on est toujours vivant. L'âme demeure. Ensuite, il dit, un seul corps et un seul esprit. Un seul esprit, cet esprit, c'est l'Esprit Saint par lequel chacun naît de nouveau. Hein. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. C'est un seul esprit, l'Esprit de Dieu par lequel nous sommes nés. Jean 3, verset 5. C'est l'Esprit qui demeure dans les enfants de Dieu. Jésus a dit au Jean chapitre 14, il a dit, je vous enverrai le Consolateur, il viendra, il demeurera en vous. Et donc cet Esprit, c'est celui qui demeure en nous. Et donc cette unité, c'est par le fait que nous avons tous le même Esprit qui demeure en nous. Hein, c'est là notre unité. Et dit... C'est aussi, il nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Hein? 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, il dit, vous êtes le temple, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors si, donc, cette vérité, le fait que celui-là a le Saint-Esprit en lui, l'autre a le Saint-Esprit en lui, l'autre a le Saint-Esprit en lui, eh bien c'est une chose qui forme cette unité, parce que nous sommes tous animés d'un même esprit. Et il nous dit même, vous êtes en Éphésiens, donc chapitre 2, versets 21 et 22, il dit « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur ». En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. Donc, tous ensemble, donc chacun est un temple du Saint-Esprit, mais tout cela rassemblé forme l'habitation de Dieu. Ce n'est pas ces bâtiments de pierre qui sont les temples de Dieu. C'est l'ensemble des croyants qui sont le temple de Dieu. Je me rappelle, c'était en Algérie à l'époque... encore dans les années 90, hein, quand il y avait le terrorisme là-bas, et les chrétiens, j'ai été visiter un groupe de chrétiens qui se réunissaient, on a marché à travers les roseaux, le long de la rivière, jusqu'à arriver à un point isolé, dans la forêt, près de la rivière, et c'est là qu'il y en a eu le culte. Il n'y avait pas de mur, on s'asseyait sur des pierres, mais c'était l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi ? C'est pas le bâtiment qui définit l'Église, c'est le fait que ce sont des personnes qui avaient Jésus-Christ en leur cœur, qui avaient le Saint-Esprit était en eux. C'est ça le corps de Christ. Et ce qui forme cette unité, c'est le fait que nous sommes habités par cet Esprit que nous recevons. Au moment où nous croyons, eh bien, nous le recevons. Et même dans ce passage de Éphésiens chapitre 1, et si nous lisons les versets 13 et 14, donc en lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Donc ça a commencé. Vous avez entendu l'évangile. Vous avez cru en cet évangile, eh bien, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et lequel est un gage de votre héritage. Donc, il est il est le gage. Vous savez ce que c'est un gage? Ce sont les arts, c'est ce qu'on avance. Voilà, c'est garanti que je passe. Quand on achète une maison, eh bien, il y a la promesse de vente, et puis il faut avancer de l'argent. Quand vous commandez quelque chose, il dit, écoutez, vous pouvez mettre un quelque chose. En général, ils essayent de couvrir, en tous les cas, ce que ça leur coûte. Mais c'est l'engagement. C'est comme ça, on sait que ça va venir. Ben, Dieu, il a dit, écoutez, pour vous rassurer, parce que normalement, le fait que Dieu le promette, ça suffit, hein, quand c'est Dieu qui promet. Quand c'est les hommes, c'est sûr, hein, il faut des garanties. Mais quand c'est Dieu qui promet, ça suffirait. Mais il a dit, rien que pour vous rassurer, eh bien, je vous donne l'Esprit de Dieu. Je vous donne l'Esprit de Dieu en vous. Et parce qu'il est là, ben, vous savez que le reste arrive. Hein, même si, peu importe par où vous passez, et ce qui vous arrive, rien à craindre, l'Esprit de Dieu est en vous. C'est un gage. J'ai dit, en plus, sa présence vous scelle, vous marque. C'est-à-dire, marque l'appartenance. Et parce que l'Esprit de Dieu est en vous, eh bien, vous savez que vous appartenez à Dieu, et tous les autres, et surtout l'ennemi, sait que vous appartenez à Dieu. Vous savez, ces jolis plots orange là qu'on retrouve sur la route, il n'y a personne qui les vole. On passe dessus, mais personne ne les vole. Pourquoi? Parce que si vous regardez de près, là-dedans, il y a marqué « propriété d'État ». On sait à qui on a affaire, donc on ne touche pas. Eh bien, c'est pareil avec l'enfant de Dieu. Il y a le sceau du Saint-Esprit, l'ennemi arrive, et puis il voit « je sais à qui j'aurai affaire si je m'amuse trop avec celui-là ». C'est une protection. Mais c'est aussi le fait que tous ceux qui portent le même sceau, eh bien, il y a une unité. On appartient. Ce sceau existe. Et puis, bien sûr, toutes ces personnes qui sont marquées par le Saint-Esprit, qui ont cette présence du Saint-Esprit, ben, ce sont ceux qui participeront aux noces de l'agneau, comme il nous dit dans Apocalypse chapitre 19. Donc, un seul corps, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, un seul esprit, c'est l'esprit qui est là, qui est en chacun, et qui est en plus en tous, et qui nous marque, qui marque l'appartenance à Dieu. Et donc, et troisièmement, il nous parle d'une seule espérance. Hein? Verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alors la vocation... Bon, je sais, dans le courant, un langage de tous les jours, la vocation, hein, c'est cette profession, c'est cette activité qu'on a. Mais bon, le mot, c'est surtout, dans vocation, c'est plutôt le fait d'être appelé à quelque chose. C'est ce à quoi vous étiez appelé à devenir, hein, c'est la vocation. Et Dieu avait un plan tout préparé pour nous, pour tous ceux qui se tourneraient vers lui. Regardez avec moi dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et on va commencer avec le verset 28. Romains chapitre 8. Et on commence avec le verset 28. Je vais lire 28 et 29 et 30. Et après on reprend chaque verset. Il dit, nous savons, Romains 8, 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, il nous parle de ceux qui sont appelés, pratiquement parlant, il nous dit au verset 28, il nous dit ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire, il a un plan. Pour ceux qu'il appelle, il a un dessein, il a un plan, il a une vocation. Et vous regardez verset 29, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, donc ces gens-là, que par sa préscience il a connus, eh bien, il les a prédestinés, donc ceux qui sont, hein, c'est pas la prédestination de ceux qui croient, hein, ceux qui sont crus, hein, ils sont prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire, donc, ce sont toutes ces personnes que Dieu a prédestinées à être à l'image de son Fils. Vous voyez, quand vous lisez le verset 29 à 30, vous voyez, il y a comme une chronologie, les choses se passent l'un après l'autre. Hein, il a dit, ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Et puis après verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et c'est une progression, c'est chronologique, c'est dans cet ordre-là que les choses se passent. Alors si c'est chronologique ici, il y a bien sûr, il y a certainement une chronologie dans le verset 28 où il dit « ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon le dessein ». Donc ils ont commencé à aimer Dieu avant de découvrir qu'il avait un dessein pour eux. Hein, les personnes ont commencé à aimer Dieu et lorsqu'ils ont commencé à aimer Dieu, se sont tournés vers lui et répondre à son amour, et bien alors ils découvrent que Dieu a un plan. Et ce plan s'enclenche. Et qui va jusqu'à la gloire. Et donc, il dit, nous avons une espérance, c'est-à-dire que nous sommes l'ensemble des personnes, le corps de Christ, c'est l'ensemble de ces personnes qui se sont tournées vers Dieu. Et puis alors, il y a une œuvre qui s'est enclenchée. Et les étapes, et Dieu a un plan, et qu'il le réalise, et c'est son plan, et c'est lui qui le réalise, et c'est ce qui me rassure, parce que si c'était moi qui devais arriver ou réaliser le plan, ben, ce serait impossible. Mais lui le réalise, et il y a cette progression. Donc, et l'appel, cette vocation, eh bien, nous sommes tous appelés à être à l'image de son Fils. Ça, c'est l'objectif. Donc la transformation commence déjà ici sur terre, et cette transformation à être plus comme Jésus chaque jour. Hein, pratiquement parlant, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est l'ensemble de ces personnes, non pas parce que les dimanches ils vont vers un certain genre de bâtiment, donc ils sont chrétiens, non, ça n'a rien à faire. Ce sont les personnes qui dans leur vie, ils sont en train d'être transformés pour être comme Christ, avoir les mêmes réactions, les mêmes... le même amour, la même plan, et ils vont dans ce même sens. Le but, ce n'est pas réaliser le bien d'un mouvement, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et ce plan, eh bien, il se réalise. Hein, si je lis 1 Jean chapitre 3, verset 2, il nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Il dit donc, on est enfants de Dieu maintenant. Et un jour, on sera à l'image du Fils de Dieu. Donc la question, en fait, nous sommes tous... en voie de transformation, si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes tous en voie de transformation et nous sommes tous à des stades différents. Donc je ne peux pas me comparer à quelqu'un d'autre et dire, ouais, mais bon, regarde, lui, moi, bon, lui, c'est pas... Non, on est tous à des stades différents. C'est comme le jardinier, là, qui pour avoir des salades tout le temps, eh ben, il en plante une semaine, la semaine d'après, il en plante encore, la semaine d'après encore, pour pouvoir récolter pendant... Ils sont à des stades différents. Mais ils reçoivent tous la même attention. Et nous sommes aussi, nous avons reçu la vie à un moment précis. Il y avait du travail que Dieu devait faire sur nous, mais on est tous à des stades différents. Et on avance, c'est le même jardinier qui s'occupe de nous, mais on est des stades différents, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et à n'importe quel stade de notre croissance dans la foi, et si vous êtes dans, vous voyez, vous regardez en arrière, vous dites, oh, mais quand même, je suis plus ce que j'étais. Bon, peut-être je ne suis pas ce que je devrais être, ça, c'est, on peut tous le dire, j'espère, hein. Parce que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Hein. Si vous croyez que vous êtes arrivé, c'est que vous n'êtes pas arrivé. C'est genre, comme on disait la semaine dernière, hein, celui qui croit qu'il est devenu humble, eh bien, il a cessé de l'être. Hein, donc, celui qui croit être sans péché, être arrivé, et ça existe, hein, j'en ai déjà rencontré. Il dit, moi, ça y est, je ne pêche plus. Il dit, ben, vous venez de le faire. Parce qu'il dit, celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. Moi, on m'a dit, moi, ma mère, elle m'a élevé que mentir, c'est à pécher. Hein. Vous savez, le Seigneur, vous vous rendez compte que ce n'est pas une organisation, le christianisme, mais c'est une pensée qui rassemble. Hein. Dieu est esprit. Donc c'est sûr que ce n'est pas du matériel. Il ne travaille pas avec ce qui est matériel. Il travaille avec une pensée. Et c'est ce qui nous rassemble. Donc il nous parle d'un seul corps, mais un corps mystique, qui n'est pas un matériel, ce n'est pas une structure, ce n'est pas ni matériel, ni organisation, c'est un ensemble d'êtres vivants. Il nous parle d'un seul esprit, ce n'est pas matériel, esprit de Dieu. Il y a une personnalité, qui a une sagesse, qui a des émotions, qui a tout, qui peut être triste, qui est puissant, qui a une volonté. Il donne les dons à qui il veut. Il a une volonté, il a tout d'une personnalité. Mais il n'a pas de représentation. Et là, il parle ce qui nous unit, c'est une espérance. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit sur papier, c'est cette espérance d'être à l'image de Christ. Un jour. Ensuite, il continue, il dit un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur, verset 5. Il y a un seul Seigneur. Un seul Sauveur et Seigneur. Parce que Actes chapitre 4, verset 12, Actes chapitre 4, verset 12, et je souligne ça, et vous dites, ouais, mais c'est bon, c'est évident, hein, c'est pas la peine de discuter longtemps. Non, mais il dit, Actes 4, 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le seul nom par lequel on peut être sauvé, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a un seul Seigneur. Dieu a dit, c'est lui, il n'y a aucun autre, un seul, hein, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est pour ça, un seul Seigneur, un seul Sauveur. Chapitre 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2 et verset 5. Timothée chapitre 2 et verset 5, il nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un Dieu, d'accord, mais il dit, il y a un seul médiateur. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur. Et c'est ça que ça veut dire. On n'a pas besoin de connaître le grec pour comprendre ce que ça veut dire. Hein. C'est un seul médiateur. Bien sûr, vous avez certainement entendu, pour ceux qui ont grandi dans l'Église catholique, la Vierge Marie serait, en vertu de sa maternité divine, la médiatrice de toutes les grâces. Et aussi, elle est appelée la co-rédemptrice. Mais ça, c'est un élément qui est étrange à la Bible. Elle est nulle part. Est-ce qu'il nous parle d'une médiatrice et qu'il accorde à Marie? Elle est la mère de Jésus, l'homme. Elle n'est pas la mère de Jésus, Dieu. Dieu était, Jésus était déjà. Hein, donc elle n'est que la mère de Jésus, l'homme, le corps. Et elle n'est pas médiatrice des grâces. Pourquoi ? Parce qu'on peut recevoir directement. Pendant le ministère de Christ, Marie n'a pas eu cette fonction. Elle était là, elle était vivante, elle était présente. Mais elle n'a pas eu cette fonction. Les gens n'allaient pas vers elle pour dire « Écoute, tu peux me prendre rendez-vous avec Jésus pour qu'il me guérisse ?» C'était pas nécessaire. On pouvait aller jusqu'à lui. Il n'y avait rien de plus facile. Le petit gamin avec ses 5 pains et 2 poissons, il a pu aller voir Jésus. Le lépreux a pu aller voir Jésus. Le brigand sous la croix a pu parler à Jésus. Tous pouvaient parler à Jésus. Pourquoi passer par quelqu'un d'autre ? Il dit, il y a un seul Seigneur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il nous dit Paul dit dans Galates, chapitre 1, verset 8, il nous dit, même si un ange du ciel venait à vous et vous présentait un autre évangile que celui que nous vous avons donné, qu'il soit maudit. Parce qu'il existe des religions aujourd'hui qui prétendent que des anges du ciel sont venus et leur apportaient un enseignement. Et c'est le début d'une religion. Vous avez à l'autre bout de la palude, là, vous avez les Mormons. Eh bien, eux, c'est Joseph Smith, et lui, il a eu un ange qui est venu et qui lui a dit, voilà, et puis il lui a révélé un autre livre. Et c'est un autre évangile. Il dit, écoutez, si quelqu'un, même un ange du ciel, il s'appelle Néphi, c'est pas grave, on ne connaît pas. Mais vous avez encore plus ancien, au 7e siècle, il y a eu apparemment un ange Gabriel qui s'est présenté à un certain monsieur en Arabie et qui lui a apporté quelque chose aussi. Et un autre évangile, un autre moyen par lequel il pourrait éventuellement être sauvé. Mais Paul nous dit, si quelqu'un, même un ange du ciel, ne fait pas confiance, même si un ange du ciel vous apporte, donc, même si vous avez une vision, si vous avez même un rêve avec un ange brillant de lumière et tout ça, attention, c'est ce qui est écrit qui est vrai. Il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ, et pas un autre nom. C'est le seul nom qui nous a été donné, c'est le seul nom par lequel Jésus l'a répété, il a dit à ses disciples, il a dit « en mon nom ». Si vous demandez « en mon nom », pas d'autre nom, « en mon nom ». Et peu importe, il y a des gens qui ont eu des vies modèles pour nous. Moi, je lis les biographies de croyants qui ont vécu des vies consacrées, mais ils ne sont pas à la hauteur de Jésus-Christ. Hein? On peut les appeler des saints, on peut les appeler ce qu'on veut, mais il n'y a que Jésus-Christ et aucun autre. Et ceux qui forment le corps de Christ, eh bien, c'est le fait de croire en un seul Seigneur et pas d'autre. Et c'est lui qui a été élevé au nom par le Père. Il nous dit, en Philippiens chapitre 2, il nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre. Et Romains 10, 13, nous dit, ceux qui invoquent le nom de Jésus seront sauvés. S'il y en avait d'autres, Dieu, c'est pas rien que pour nous embêter, il dit, écoute, il y en a 10, mais je vais vous donner un seul seulement pour vous embêter. Non, non. Merci Seigneur qu'il n'y en avait pas un. Et maintenant, il y en a un depuis la croix, il y en a un par lequel nous pouvons être sauvés. Et donc, c'est à lui que nous venons et il appartient à personne. Il est venu et c'est par lui que nous avons la vie. Un seul Seigneur. Je continue dans Éphésiens chapitre 4. Il nous dit un seul Seigneur, une seule foi. Ah, là encore. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il peut y avoir des discussions. Le mot foi ne veut pas dire une religion. Je sais que dans le langage de tous les jours, chacun sa foi. Vous avez votre foi, ils ont leur foi. Mais c'est pas une religion parce que c'est jamais comme ça que dans la Bible, il n'y a jamais parlé du christianisme comme étant une foi. Dans Jude chapitre 1 verset 3, donc Jude qui est juste avant l'Apocalypse, il nous dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me sentis obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Il nous parle d'une foi qui a été transmise et une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour la remplacer. Donc la foi dont il parle, c'est celle qui a été révélée, hein, celle qui nous a été apportée par les prophètes et les apôtres. Et c'est celle qui s'appuie sur la parole vérité, l'évangile, et sa forme la plus basique, si vous voulez réduire l'évangile, le message, hein, l'évangile c'est la bonne nouvelle, hein, donc c'est réduire le message à l'essentiel. Eh bien, dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, il nous dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Ça, c'est l'essentiel. C'est-à-dire, si vous ne croyez que ça, vous êtes sauvés. Et c'est par ça qu'on commence. Il dit « Vous croyez que Christ est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. » Ça, c'est l'évangile, c'est le message. Les anges, on dit, nous apportent, les anges dans les environs de Bethléem, là, quand, auprès des bergers, on dit, nous vous apportons une bonne nouvelle. Il vous est né aujourd'hui un sauveur. Et c'est cette bonne nouvelle, c'est lui, ce sauveur. Et comment est-ce qu'il est devenu sauveur? C'est pas par sa naissance, il fallait qu'il naisse, mais c'est par sa mort et sa résurrection, qu'il peut être notre sauveur parce qu'il a pris notre place sur la croix. Donc c'est important. Lorsque je parle, qu'est-ce que tu crois? Eh bien, vous commencez, quelqu'un vous dit, qu'est-ce que tu crois? Eh bien, si vous êtes enfant de Dieu, la première chose à répondre, c'est que je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité. Ça commence. Et après, de là, bon, on peut partir de là. Mais là, c'est l'essentiel. C'est pas une question de ce que je pense, c'est une question de ce qu'il a dit. Hein. Et après, il nous parle un seul baptême. Ah, là, voilà, là, il va pas avoir des discussions. Hein. Il y a encore beaucoup de discussions là-dessus. Il nous parle un seul baptême. Alors, quel est ce baptême? Alors, certains prennent ce verset pour dire qu'il suffit d'avoir été baptisé. Quel que soit le mode, quel que soit le moment, parce qu'il y a un seul baptême. Hein, c'est à partir du moment que j'ai été baptisé, peu importe qui l'a fait, comment ça a été fait, quand ça a été fait, si j'étais conscient ou pas conscient, ben, je suis baptisé, je suis baptisé. Voilà. Et certains peuvent le prendre comme ça, mais bon, on prend toujours les choses dans le contexte de la Bible. Et si vous regardez avec moi dans Actes chapitre 19, les Actes des Apôtres, chapitre 19, Paul arrive à Éphèse, justement, Éphèse, on est en train de parler de ce livre-là, donc je commence au verset 1, je vais lire jusqu'au verset 6, Actes, chapitre 19, verset 1 à 6, il dit « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « Mais de quel baptême vous avez été donc baptisé ?» Ils lui répondirent, « Du baptême de Jean, hein, il s'agit de Jean-Baptiste. » Alors, Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus, Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et donc ce fait que parler en langue, ça a montré que c'était approuvé et reconnu par Dieu. C'était le signe qui permettait de savoir. Donc eux, apparemment, ils avaient répondu au message de Jean, ils avaient suivi, puis après, peut-être qu'ils sont partis, ils ont été à l'étranger, ils se trouvent à Éphèse, et ils restent avec ce qu'ils ont connu. Hein. C'est, bon, c'était pas que Paul ne les a pas condamnés. Il a dit, mais seulement, il y a des nouvelles, il y a des informations que vous n'avez pas encore. Vous étiez à une période de transition, il y a des choses qui sont passées après. Jésus est venu. Il dit, maintenant, vous avez besoin, vous avez été baptisé, bon, c'est très bien, mais maintenant, il y a le baptême de Christ. Le baptême, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Hein, donc, même s'ils avaient été baptisés par un baptême, mais c'est pas le fait d'être baptisé, c'est le fait, quel était le contenu de votre baptême. Et ensuite, si vous lisez dans Actes chapitre 10, vous êtes là dans Actes chapitre 10, vous savez, c'est là où l'apôtre Paul, Pierre arrive, et c'est l'histoire de Corneille. Hein, donc je ne vais pas lire toute l'histoire, il faudrait lire tout le chapitre 10. Mais Pierre, encore, il n'a pas trop l'habitude de parler à des païens au nom de Jésus, mais comme le Seigneur lui a dit de le faire, il le fait. Donc au verset 44, il dit comme, parce qu'il vient d'expliquer Jésus et ce qui était arrivé, que Jésus était mort, il était ressuscité et tout cela. Donc il arrive au verset 44, et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le pria de rester encore quelques jours. Vous remarquez que un ange avait dit, allez chercher Pierre, il va vous dire ce que vous devez croire. Pierre était venu. Et alors, eux, ils écoutaient. Au fur et à mesure qu'ils parlaient, eux, ils croyaient, ils recevaient. Au fur et à mesure, et quand il a expliqué que Jésus-Christ était venu, qu'il était mort et qu'il était ressuscité, eh bien, eux, comme ils croyaient au fur et à mesure que les choses apparaissaient, hein, parce qu'ils étaient informés, parce qu'on ne peut pas croire en quelque chose dont on n'est pas au courant, mais au fur et à mesure qu'ils étaient informés, ils croyaient. Et quand ils ont cru ça, ce qui est essentiel, c'est ça que je disais tout à l'heure, à partir du moment où je crois que Jésus-Christ est mort, et qu'il est ressuscité, je suis sauvé. À l'instant même, quand ils ont reçu cette invention, ils l'ont cru, et bien à l'instant même, sans qu'eux sachent le demander, le Saint-Esprit est descendu, était en eux, ils furent baptisés du Saint-Esprit. Mais comme Pierre et puis les apôtres, eux, ils n'avaient pas trop l'habitude de ça, ils ne savaient pas que les païens pouvaient recevoir le... Alors il fallait un signe, il fallait que Dieu leur donne un signe, il leur a donné un signe, il leur a donné le parler en langue, pas qu'il était utile, on n'avait pas besoin de parler en langue là, mais le Saint-Esprit, connaissant la nature humaine, a dit, je vais donner le même signe que eux. À Pentecôte, ils ont parlé en langue. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont parlé en langue. Donc maintenant, quand eux, ils voient que les païens parlent en langue aussi, quand ils reçoivent, ils disent, ah ben ça doit être la même chose, que Dieu ne fait pas de différence. Ils ont compris le message, et c'est pour ça que Pierre, il dit, si Dieu les baptise, si lui les reçoit, moi, il faut que je les reçoive, on va les baptiser alors. Et quand ils ont cru, et ils ont été baptisés tout de suite. Alors, le parler en langue était strictement le signe, c'était ça, c'était pour Pierre et ceux qui étaient avec lui, et puis c'est grâce à cela qu'ils ont pu rentrer à Jérusalem et expliquer les choses, et ça a été compris là. Pierre a ordonné que tous ces gens qui parlaient en langue, donc c'était le signe qu'ils avaient été sauvés, ils sont sauvés, maintenant, la chose normale, c'est d'être baptisé du baptême d'eau. Ce baptême, quand il dit un seul baptême, alors c'est... surtout ne pensez pas, c'est le baptême baptiste. Hein. C'est pas... Baptiste n'est pas dans la Bible, à part Jean-Baptiste, hein, mais c'est tout. C'est le baptême qui vient après la foi. Hein, c'est ce baptême-là. Le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance, qui est très bien. On peut avoir des choses, mais il n'y a que le baptême d'eau qui représente cette image de celui qui est devenu enfant de Dieu. Et dites, il y a un seul baptême, dites, alors c'est le baptême d'eau, alors oui et non. Hein, je dis oui et non. Regardez avec moi dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, Et donc, verset 3, Romains 6, verset 3, et vous allez trouver le mot baptisé, là, et sans qu'il parle de l'eau. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc ce qu'il est en train... En fait, ce qui arrive, c'est que au moment où je comprends que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, dans un sens, je me dis, mais il est mort pour moi. Donc c'est comme si moi, j'étais sur la croix. Je m'identifie à lui. Je dis, mais il est mort, et je suis mort en lui sur la croix. Et quand il était enseveli, j'ai été enseveli avec lui. Et quand il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Et en fait, c'est ça le baptême, et c'est le baptême qui se passe dans le cœur. C'est lorsque je reçois Jésus-Christ, eh bien, le baptême, c'est d'être plongé dans quelque chose. Hein, c'est le mot plonger, c'est le mot immerger. Il dit, voilà. Donc, il y a le baptême, c'est lorsque ce moment, dans mon cœur, c'est quelque chose qui doit se passer dans mon cœur d'abord. S'il n'y a rien qui se passe dans mon cœur et puis on plonge quelqu'un dans l'eau, eh bien, autant lui donner une savonnette. Hein, comme ça, c'est vraiment utile. Mais si il a compris que Jésus-Christ est mort sur la croix pour ses péchés, et qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, là, eh bien, il dit c'est un baptême qui se passe dans le cœur. Ensuite, le baptême d'eau n'est que témoignage de ce qui s'est passé dans le cœur. Hein, c'est tout. Donc, le second n'est qu'un signe. Si l'autre n'est pas vrai, le signe n'a pas de sens. Mais si vraiment j'ai reçu la vie, si je suis en Jésus-Christ, si je me suis joint à Jésus-Christ et maintenant je veux vivre pour lui, eh bien alors la chose normale après, c'est de passer par les eaux du baptême, le symbole, et c'est une manière de dire publiquement, et le Seigneur nous encourage dans ce sens-là. Donc quand je parle du baptême, je parle de ce qui s'est passé dans le cœur, plus que ce qui s'est passé, parce que même si on ne passe jamais par l'eau, mais si ça s'est passé dans le cœur, on est sauvé. Hein, même si on passe jamais par l'eau, hein. Jésus a pu dire au brigand, il a dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, hein. Et il a jamais été baptisé ni d'une manière ni d'une autre. Donc c'est ce baptême là ou c'est ce fait d'être associé à Christ. C'est pas le fait d'avoir des cérémonies, ça n'a rien à faire. Encore une fois, je souligne le fait que tous ces éléments sont des éléments qui sont pas, c'est pas des activités, c'est pas des gestes, c'est quelque chose qu'on croit, c'est quelque chose dans lequel on entre. Tout est mystique et spirituel. Mystique pas dans le sens de mystérieux, mais dans le sens de c'est pas matériel. Hein. Bien sûr que je vais ajouter, hein, parce que quand même le baptême est un baptême d'eau, hein. Quand même, lorsqu'on a l'eunuque, il nous dit qu'ils descendirent tous deux dans l'eau, et puis il nous parle ils sont sortis de l'eau, hein. Donc c'est quand même pour que l'image soit complète. Alors il nous dit, je reviens à Éphésiens chapitre 4, il nous dit, il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et au verset 6, un seul Dieu et Père. Dieu et Père, c'est la même personne. Hein. Et il y avait, dans l'Ancien Testament, Dieu a déclaré aux enfants d'Israël, au pied du mont Sinaï, Deutéronome chapitre 6, il a dit, un seul Dieu. Hein. C'est comme ça commence. Exode chapitre 20, quand il parle des 10 commandements, il commence, tu n'auras qu'un seul Dieu. Et puis, on l'a lu tout à l'heure, hein, dans 1 Timothée 2, 5, il nous dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Mais il y a un seul Dieu, c'est toujours vrai. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, un seul Dieu est le même Dieu. Hein, il n'y a pas 36. Et ce Dieu est Père. Et Père, il n'est pas seulement Père de Jésus, hein, Jésus l'appelait son Père, mais il nous a dit à vous, quand vous priez, dites notre Père. Donc il n'est pas seulement le Père de Jésus, mais il est aussi notre Père. Et il est Dieu et Père, et nous pouvons dire notre Père qui est aux cieux. Hein. Et donc il est notre Père si nous sommes enfants de Dieu. Donc en fait, notre Père, il ne nous a pas enseigné à dire mon Père qui est aux cieux, mais de dire notre Père qui est aux cieux. C'est toujours parce que, pourquoi ? Parce que ce corps existe. Jésus, rien que par cette formule-là, eh bien, il montrait que c'est notre Père. Hein? Mon Père, c'est ton Père. Donc on est frère. Donc on est de la même famille. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Hein? Et donc il dit, notre Dieu est Père. Et ce Dieu, ben, c'est le Dieu trinitaire. Il est le seul. Il y a d'autres, même 1 Corinthiens 8 nous dit que bon, il y a d'autres qui sont appelés des dieux, hein, mais avec un petit dé, hein, il y a d'autres choses qui sont appelées des dieux, mais il y a un seul qui est le Dieu, votre Dieu. Il n'y a pas d'autre. Et vous savez, quand on fait cette liste des sept éléments de cette unité, ben finalement, on ne retrouve pas le nom d'un mouvement. Hein. En fait, c'est à nous tous de faire partie de ce corps-là. Et c'est pour ça que presque chaque fois, je le dis en plaisantant quand je dis baptiste. Hein, parce que c'est vraiment, il ne faut pas en parler normalement. C'est parce qu'on est sur terre qu'on en parle. Mais normalement, il ne faut pas en parler. Dans la Bible, on n'en parle pas, elle n'est pas. Hein, et c'est pour ça que j'ai des frères à côté, là, j'ai des frères ailleurs, j'ai des frères. C'est tous ceux qui sont attachés à ces éléments-là, qui sont les frères. Peu importe quelle sorte de clocher ils sont rattachés, ce qui importe, c'est à ce qu'ils sont là. C'est ça la définition de ceux. Et l'unité existe. Et quand je rencontre même quelqu'un que je ne connais pas, mais il croit ces choses très vite, on sent qu'on est proche. Parce qu'on a le même esprit, le même Dieu et le même Père. Et remarquez à la fin du verset 6, il dit qui est le Père qui est au-dessus de tous. Donc nous voyons le Père qui est souverain, au-dessus de tous. Il dit parmi tous. Et là, c'est cette Trinité qui est là, parmi tous, c'est Jésus-Christ, il dit, voici, je suis avec vous. Il est parmi tous. Il dit, et en tous, et là, vous avez le Saint-Esprit qui est en nous. Et la Trinité, elle est là. C'est pour ça que je vous ai dit, comme j'ai dit tout au début, la Trinité, elle est dans l'œuvre de Dieu, toute la Trinité. C'est pas juste une formule quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je souligne en passant que quand on dit au nom, le nom est singulier. Hein. Au nom, c'est-à-dire c'est le singulier et puis il y a trois qui sont mentionnés. Donc c'est un seul Dieu en trois personnes et c'est essentiel, c'est ça qui ça définit le Dieu de l'Évangile. Et c'est ceux-là qui font partie du corps de Christ. Alors ces sept éléments sont les bases de l'unité que Dieu a établie grâce à la mort de Christ sur la croix, hein, et à la présence du Saint-Esprit dans le croyant. À partir du moment que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, et pour ceux qui ont cru, eh bien le Saint-Esprit est en eux, eh bien c'est le corps de Christ qui se forme. L'habitation de Dieu. Et là, ça échappe à tout pouvoir humain. C'est ça qui est beau. Parce que si les hommes, ils avaient un petit quelque chose là-dedans, ça serait le bazar. Mais l'être humain n'a rien à faire avec tout cela. Il ne touche pas. Ou je suis dedans, ou je ne suis pas. C'est lui qui me l'offre, qui me propose. Et c'est par la foi que je rentre. Maintenant, puisque c'est vrai, et si je suis dans cette unité, alors... Eh bien, il nous dit, je reviens au verset 3, il nous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et donc faisons tout pour vivre cette unité. C'est pour ça que quand je rencontre des frères, même s'ils sont d'une autre assemblée ou d'un autre mouvement, et ils ne font pas les choses exactement comme moi, mais moi je les appelle frères, parce que ce sont des frères. Peut-être qu'on ne ferait pas la même chose, ce ne serait pas quoi, commode de vivre dans la même maison, mais ils sont mes frères. Hein, on a tous des familles, et ce n'est pas parce qu'on a le même père, la même mère, qu'on fait tout exactement pareil. Hein. Et donc, mais on est frères, et on ne doit jamais l'oublier. Et on doit le respect, on doit la confiance, et on doit avoir cette relation. Et c'est cette attitude qu'il faut avoir. Vivre cette unité, on ne la crée pas, on vit celle qui existe, ce que Dieu a établi. Et maintenant, la grande question, c'est est-ce que je suis dans ce corps de croyants? Est-ce que je fais partie? Est-ce que tu as compris que Dieu t'a tant aimé? Est-ce que tu as compris que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés? Qu'il a pris ta place? Et quand il est mort là, dans un sens, c'est moi. Je suis mort avec lui. Et c'est pour ça que mon péché peut être expié. Et maintenant, ben le Saint-Esprit est là pour que je puisse vivre et m'épanouir et devenir semblable au Fils de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu, un beau plan de Dieu. Et qui est moins compliqué que les religions, n'importe laquelle, parce qu'on a tellement de traditions, et plus la religion elle est vieille, plus elle a des traditions. Mais l'Évangile, c'est pas compliqué avec le temps, elle est restée, c'est le même texte. C'est l'Église primitive de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide, prenons un temps de recueillement et de tout ce qui a été entendu, de tout ce qui a été dit. Voyez, soit vous dites, il faut que je règle ça, soit vous dites, merci Seigneur pour ceci et cela. Je comprends et je comprends l'importance et gloire à ton nom. Nous avons tous quelque chose à dire au Seigneur. Prenons quelques instants là pour le dire dans le silence, après quoi je vais prier.